Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel. À travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Et bienvenue dans un nouvel épisode. Coucou Isadora, coucou Tiffany.
Coucou les filles.
Bienvenue Tiffany. On t'a déjà eu dans notre podcast, c'était quand? Quand est-ce qu'on était?
En mai je crois dernier. Mai 2021.
22.
Oui, 2022. Oui, il y a printemps dernier, ouais. Tu es venue à la maison.
Bah là, c'est toi qui es donc chez moi, chez Isadora. Et bon, voilà, on a fini de manger, on a papote depuis... des heures.
3 heures.
On s'est dit, bon, là, on va peut-être enregistrer ce fameux épisode parce que c'était soit ça, soit on m'arrêtait.
C'est ça.
Et soit on le faisait pas et on continuait à papoter en off. Et aujourd'hui, on est content de t'avoir pour pouvoir papoter avec toi et répondre à des questions qu'on a posées sur Instagram, notamment concernant l'alimentation et le budget. Bah, comme c'est deux sujets qu'on aime beaucoup aborder.
Bah oui, et puis une problématique bien actuelle avec
exactement.
L'inflation aussi.
Donc, ça va être chouette de pouvoir répondre aux questions de nos abonnés tout en papotant comme on fait habituellement. Alors, comme c'est moi qui ai les questions, parce qu'Edora, comme d'habitude, pose des questions, mais oublie de screener les réponses. Heureusement, Marisa est là et veille au grain. Donc, c'est grâce à moi aujourd'hui que vous avez cet épisode à écouter, les amis. Remerciez-moi, s'il vous plaît, sur Instagram. Donc, c'est moi qui vais poser les questions. Je vais, franchement, il n'y a pas d'ordre. Là, pour le coup, professionnel, ni Isadora ni moi ne le sauront jamais. Donc, j'ai tout là et on va balancer. Et l'idée, c'est surtout de balancer des questions et comme ça, après, on y répond ensemble. Voilà. Alors, on va commencer par totalement de façon arbitraire.
Je crois qu'on n'a pas demandé, mais déjà aussi, Tiffany, c'est qui?
Ah, mais bien sûr, j'ai l'impression que tout le monde connaît Tiffany. Mais tout le monde connaît Tiffany Healthy.
Bon, Tiffany, qui j'avais déjà fait une petite présentation sur le dernier épisode qu'on avait fait, mais qui je suis? Donc, je m'appelle Tiffany, j'ai 26 ans, je suis jeune maman, diététicienne depuis 2016. Donc, je suis sur les réseaux depuis cette époque-là aussi. C'est comme ça aussi que j'ai démarré mon activité. Donc, voilà, je participe à quelques podcasts, dont le vôtre. Et puis, bah, je partage aussi beaucoup sur Instagram des recettes, ma vie quotidienne. C'est vrai que je n'ai pas un Instagram qui est très orienté bouffe à 100%. Peut-être ça aussi que les gens aiment, c'est le fait que voilà, ça soit un peu lifestyle. Et puis, alors, depuis que je suis maman, c'est sûr que c'est aussi très centré sur l'alimentation des enfants, sur tout ça. Je fais beaucoup de tricot, ça fait partie de ma passion en off. Et puis voilà, je travaille essentiellement en ligne par visio, mais donc j'aime bien de temps en temps revenir un peu à la vraie vie et re-rencontrer les gens, parce qu'on aurait pu le faire à distance, hein, mais ça me faisait plaisir de faire un peu de route parce qu'on habite quand même pas très loin. Pour pouvoir se voir en vrai.
Et manger une galette.
Et manger une galette que j'ai ramenée. Et j'ai pas eu la fève, toujours pas.
C'est moi qui... C'est Marisa, encore, toujours. C'est moi la princesse ici. C'est moi la reine. Donc merci Tiffany pour cette présentation qui est très jolie en plus. T'as pas dit que t'étais quand même une adepte de la vitamine D. J'ai l'impression que toutes tes stories c'est que ça. Donc
non, mais c'est
dans
quoi,
ta passion tricot, vitamine D aussi.
Tricot et puis parler un peu de la supplémentation parce que l'alimentation c'est sûr que c'est central dans notre santé Mais il y a certaines choses, on ne peut pas passer à côté. Donc, je ne suis pas contre les compléments alimentaires s'ils sont bien choisis.
Il y a eu des questions à ce sujet.
Ouais. Parce que déjà, on a plus de besoins qu'avant. La nourriture est plus pauvre en nutriments qu'avant. On passe plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc même au niveau vitamine D, si on en parle. Déjà, les rayons du soleil l'hiver, ça ne sert à rien parce qu'ils ne nous réchauffent pas. Et puis, si on passe l'été à l'intérieur parce que c'est caniculaire, ou si on passe notre temps à l'ombre, on ne la synthétisera pas non plus.
Ah oui, d'accord. Bon, c'est intéressant. Alors, on va pouvoir y répondre. Parce qu'il y a une question à ce sujet des compléments alimentaires. S'ils étaient, comme d'habitude, on a toujours les mêmes questions. C'est est-ce qu'ils sont primordiaux ? Ça se dit ça ? Je ne sais pas. Mais on y répondra. Petit budget. Donc, c'est vraiment un sujet qui plaît beaucoup. Il y a eu pas mal de questions. On n'aura pas l'occasion de répondre à tout. Mais il y a eu quand même beaucoup de questions. Forcément, on est en pleine inflation. Je pense que tout le monde a compris. La santé, c'est important. Mais en même temps, là, aujourd'hui, tu arrives au magasin. Il faut casser son PEL pour manger correctement. Donc, on est là pour vous. Écoutez, ma foi, on va donner des conseils, des astuces, de façon en toute humilité. Donc, on va commencer par quelle question ?
Puis on aime parler un peu d'argent aussi.
Oui. On va commencer directement, ça va être sympa celle-là. Auriez-vous des tips pour acheter local et bio, mais pas trop cher ? Difficile de concilier tout cela ?
Ah, question difficile.
Oui, moi je trouve qu'elle est déjà difficile sans être sans lettre, mais bon, elle est difficile quand même.
La question aussi, c'est qu'on peut décliner de cette question-là, c'est finalement, est-ce que c'est nécessaire de manger par exemple tout bio, ou on peut se cantonner par exemple au local ? Mais c'est quoi la différence entre local et bio aussi ?
Ouais. Alors le local, alors il y a différents stades de local, c'est-à-dire que ça peut être local français, local régional, départemental, voire même à 20 km autour de chez nous. Et le bio, c'est les agriculteurs, les producteurs qui ont adhéré à la charte bio, au label AB. Et du coup, ils sont contrôlés très régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a aucun produit qui est utilisé, enfin bref, que tout soit clean. Après, voilà, les agriculteurs sont mieux payés, enfin, sont mieux rémunérés. Mais après, le truc, c'est qu'un agriculteur qui n'est pas bio n'est pas forcément bourré de pesticides. Vous l'avez dit très, très souvent, on va au marché. J'ai déjà vu, moi, des agriculteurs mettre des panneaux sur leur stand pour dire qu'ils sont en biodynamique ou agriculture raisonnée, sans l'usage de produits chimiques, de pesticides. Parce que adhérer au label bio, ça coûte très cher pour l'agriculteur et souvent c'est pas s'il doit en plus derrière augmenter ses prix, c'est pas forcément gagnant. Donc le local, c'est vrai que ça permet notamment à ce que il y ait moins de pertes de vitamines et de minéraux, parce que quand on récolte un fruit ou un légume, à partir du moment où on le débranche de sa branche ou de ses racines, il perd en nutriments chaque heure qui passe. Voilà. Donc si ça fait une semaine qu'il a été récolté et qu'il a passé des journées en frigo ou sous la lumière, il va être certes peut-être joli de l'extérieur, mais il ne va plus rien contenir. Alors que si on mange quelque chose qui a été récolté il y a 2 jours ou même la veille, on va avoir un végétal qui sera plus riche en nutriments. C'est toujours mieux de faire local et bio, ou en tout cas local et sans produits chimiques, pour s'assurer qu'on ne mange pas des bêtises et qui nous font du mal à notre santé. D'avoir des aliments qui seront plus riches en nutriments. Après, pour concilier le budget, des choses que vous dites souvent, aller sur le marché ou chez les producteurs ou les magasins de producteurs. Après, en grande surface, on va avoir des choses françaises. Parfois, on peut avoir sur certains écriteaux des agriculteurs, des producteurs locaux qui vont s'installer dans les rayons de nos supermarchés, mais c'est plus rare. Les magasins bio, moi, ce que je leur reproche, c'est que c'est souvent pas très local, c'est bio, mais il y a des choses qui viennent de très loin.
Et moi, pour ma part, si je peux me permettre, le bio de les fruits et légumes Biocoop, etc. Moi, je trouve que par rapport à quand je vais sur mon marché,
il me donne pas envie. Moi.
Il donne pas envie et il périme. Enfin, périme. Tu sais, il se rabougrisse très vite. Que moi, quand je vais sur le marché, c'est vrai que le producteur, il est pas bio. C'est vrai que après le bio, moi, je dis que beaucoup de gens pensent que santé égale bio. Il faut pas oublier qu'aussi bio aujourd'hui, c'est un vrai business. Hein, c'est du marketing énormément aussi. Donc bio, il y a beaucoup d'ultra transformé en bio. Donc pour moi, bio, ça veut pas dire forcément manger santé, c'est pas forcément un gage de manger santé. Mais moi, c'est vrai que quand on va sur le marché, nous, le producteur, il l'a retiré du sol. La veille, il nous l'avait dit, c'est... parce que nous, on pose des questions. C'est vrai que moi, j'ai tendance à poser des questions directement au producteur. Vous n'êtes pas bio, donc ça convient à mon budget, moi, qu'il ne soit pas bio, parce que c'est vrai que le producteur bio, c'est pas donné, hein, local, bio, voilà. Donc moi, il me le dit, voilà, moi, je suis agriculture raisonnée, je ne peux pas me permettre de... Voilà, moi, je discute comme ça, je pose la question, et comme ça, au moins, on sait que je ne mange pas trop de cochonneries.
Tu oses lui demander ?
Ah, moi, je demande, oui. Parce que ça fait des années que je vais sur le marché aujourd'hui. Au début, j'allais sur le marché, limite, j'étais limite tête baissée, parce que le marché, c'était l'endroit des personnes âgées, tu sais, les personnes qui savent, qui connaissent, les habitués. Ouais. Toi, t'arrives, tu vas jamais
les
sur le marché.
Les connoisseurs.
Les connoisseurs, c'est ça. La première fois que j'allais sur le marché, moi, j'y allais, mais tête baissée, je prenais mes trucs. Parfois, j'étais bien intéressée par un légume, jamais j'aurais osé demander. Aujourd'hui, je vais dire, alors là, je voudrais bien tester, par exemple, votre chou romanesco, mais donnez-moi une recette avec, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on le cuit. Ça, maintenant, je pose tout le temps les questions, sans aucun souci, ouais. Mais, ouais.
Et c'est vrai que donc nous on parle, mais en effet parce que ça fait des années qu'on y va, hein. C'est clair que moi non plus, hein, j'osais pas au début. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les producteurs, c'est des passionnés. C'est aussi peut-être la différence avec quand tu vas dans un magasin, ça peut être un caissier ou un vendeur. Bon, le producteur, lui, en fait, parfois il n'attend que ça. Moi, si je pouvais aujourd'hui revenir en arrière, je poserais des questions dès que j'y ai mis les pieds sur le marché.
Ah, tu sens qu'ils sont contents de vanter un
pain. Ah, mais bien, franchement, leurs produits, ils sont fiers de leurs produits. Je trouve qu'ils sont fiers quand tu leur poses des questions. Tu sais, après, c'est même parfois des petites piques qui vont te dire quand tu vas dire « Ah, vous n'êtes toujours pas de radis ?» Bah, c'est pas la saison, enfin. Et puis, du coup, parfois, ils t'éduquent. Moi, on m'a appris des choses que je ne savais même pas sur les saisons. Alors que je pensais pourtant être plutôt cool sur les saisons et plutôt... éveillée sur le sujet, on m'apprend des trucs et moi je vais même aller plus loin parce que à un producteur je vais même demander, vous accepteriez qu'on vienne vous voir en fait, voir un peu comment ça se passe. Mais je pensais pas qu'il dirait, mais bien évidemment, vous avez ma carte parce que enfin généralement sur les camions c'est écrit l'adresse. Bah venez quand vous voulez avec vos enfants, quand là vous pouvez. Et en fait on a tout vu, donc je pense qu'aussi on peut, il faut oser parce qu'on a toujours l'impression qu'on va les déranger alors qu'en vrai ils sont hyper sympas et il y en a même, ils sont vraiment honnêtes, hein, parce que moi, après je pense pas, peut-être pas tout le monde, mais là où on achète les pommes, j'avais jamais demandé, pour moi c'est logique qu'il était, il faisait raisonner, etc. Et l'autre fois on est avec ma mère qui a demandé, mais les pommes du coup c'est sans pesticides, etc. Et il nous a expliqué, les pommes je mets un traitement, mais il nous a expliqué vraiment lequel c'était et après là c'est à prendre ou à laisser. Ouais. Oui, je suis d'accord pour ce traitement-là qui est pas énorme, mais il existe. Ou je le prends pas et je vais voir ailleurs. Donc
puis après pour rajouter, alors déjà sur le budget et sur savoir comment concilier local et ou bio, le moins cher possible. Je pense qu'on viendra en reparler sur la part du budget que l'on consacre à l'alimentation et c'est vrai que nous trois on est d'accord là-dessus. On préfère rogner sur autre chose et puis supporter l'inflation sur l'alimentation et puis payer plus cher nos fruits, nos légumes, quitte à faire des efforts sur le reste parce qu'on ne fait pas d'économie sur notre santé. Et puis après, au niveau du bio, même si on mange très très bio nous à la maison, il y a quand même des fruits et des légumes qui sont moins à risque si on ne les prend pas bio. Parce que notamment tout ce qui a une peau très épaisse, non comestible, avocat, banane, les kiwis, les melons, les pastèques, tout ça en fait c'est, on ne mange pas la peau, voilà, donc les agrumes pareil, sauf si on récupère les zestes ou qu'on fait infuser des tranches de citron, des tranches d'orange, là forcément il faut faire gaffe à ce que ce soit bio, mais dès qu'on se débarrasse de la peau qui est suffisamment épaisse et non comestible, le cœur du produit n'a pas été vraiment contaminé. Et il y a des produits qui sont extrêmement sensibles. Je n'ai pas la liste précise en tête, mais il va y avoir la pomme forcément, les cerises, le raisin, les salades, les épinards, les pommes de terre, les tomates, les fraises, tout ce qui est tout petit, qui ne s'épluche pas, qu'on ne peut pas enlever la peau, ça imprègne tous les produits. Il me semble qu'il y a des...
Les dirty dozen, non, c'est pas ça qu'on appelle les dirty dozen. Vous avez mis sur Google, vous mettez dirty, D-I-R-T-Y.
Même dans Google, fruits, légumes, oui. Les plus vulnérables ou les plus contaminés ou ceux qui sont les plus à traiter, etc. Et par contre, il y a des cultures, en fait, qui, même si elles ne sont pas aspergées de pesticides, n'attirent pas les ravageurs. Je crois qu'il y a le chou-fleur, enfin, il y a certains choux qui fait que même si on ne met rien, on n'aura pas vraiment de perte parce que ça n'attire pas ouais, les limaces, les trucs, les machins, les maladies. C'est des trucs qui sont un peu increvables. Oui. Alors que, par exemple, si tu ne traites pas des pommes, tu vas perdre ta récolte. Et c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Mais nous, notre marchand de producteurs, ce n'est pas un primeur, parce qu'il y a aussi une différence avec les primeurs. Si, quand c'est écrit à la main sur les écriteaux, qu'il y a de la terre partout, que voilà, c'est pas très, très bien ordonné, ça, c'est du producteur. Quand, par contre, vous avez une orange dans un petit papier...
Avec une, bah déjà, une orange, si vous avec une en étiquette. France métropolitaine, avec une orange chez le producteur, posez-vous des questions, il y a peu de chance. Et la banane, ouais. Peu de chance, ananas.
Tout ce qui est très bien rangé, très propre, machin, etc. Ça, c'est sûr que c'est du primeur. C'est acheté en gros. Enfin, voilà, les prix ne sont pas les mêmes. Et puis, la qualité, la saisonnalité non plus. Mais notre producteur, nous, c'est une boutique qui rassemble des producteurs qui sont à 30 km à peu près autour de chez nous. Et il y a certaines choses qui sont bio parce que c'est labellisé bio. Après, pour le reste, elle nous explique vraiment de vive voix que c'est agriculture raisonnée et que, bah, par exemple, ils ne vont pas utiliser de traitement, mais là, ils vont implanter certains insectes qui vont protéger la culture parce qu'ils vont manger les, voilà, les autres. Enfin bref, donc voilà. Après, local et bio au niveau budget, je dirais d'abord local et s'assurer qu'il n'y a pas d'usage de produits chimiques. Si c'est bio... tant mieux, mais c'est vrai que le bio d'ailleurs, de toute façon, bah, cette perte de vitamines et de minéraux, on l'a parce que ça a été cueilli il y a beaucoup trop longtemps, ça a beaucoup trop voyagé. Et puis, acheter du bio d'un autre continent, dépenser de l'essence, du gasoil dans des avions, dans des bateaux,
oui,
ça n'a pas de sens, vraiment.
Et moi, j'aime bien toujours dire aussi...
budget, ouais, consacrer...
une part de budget.
De budget et se dire que... Après, voilà, c'est... je veux pas qu'on dise que je ne prends pas en compte les difficultés financières des gens parce que c'est pas du tout ça. Moi-même, j'ai un très petit reste à vivre, mais pour le coup, on laisse passer cette période d'inflation et on fait des économies ailleurs et pas trop sur la bouffe. Donc, quitte à manger un peu moins et à faire des menus un petit peu plus précis pour ne pas acheter en trop grande quantité le juste besoin. Mais pour le coup, ouais, on y consacre quand même... une partie de notre budget en priorité, quoi.
Ouais, non, c'est important. C'est vrai que nous, on en parlait tout à l'heure en off, mais pour nous, l'alimentation fait partie intégrante de notre santé. Et comme on le dit très souvent ce podcast, moi, je veux vivre le plus longtemps possible.
Profiter de la retraite.
Profiter, voilà, vraiment, je veux vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Pour moi, vivre vieux, vieille, sous perfusion, ça ne m'intéresse pas. Donc forcément, pour moi, l'alimentation, ça fait partie. Ça ne veut pas dire que demain, je me fais écraser par une voiture et tant pis, bah, en tout cas, j'aurais vécu en bonne santé jusque-là. Mais pour nous, c'est important. Donc c'est vrai qu'à côté, des achats, on ne les a pas. On achète peu de fringues, on n'achète pas de maquillage, on achète... Il y a plein de choses qu'on n'achète pas, on boit pas d'alcool, il y a plein de choses comme ça, on n'a pas en groupe dans des super bécanes de folie, donc on peut se permettre d'avoir un plus grand budget. Mais pour les personnes qui ont vraiment un budget très restreint, parce que vous pouvez avoir des budgets très 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 restreints, j'aime bien toujours dire la chose que Karine, elle dit très souvent à notre grande sœur, diététicienne nutritionniste, c'est le côté...
insupportable.
Que, en fait, vous pouvez manger, il vaut toujours mieux manger un produit brut de faible qualité... qu'un produit transformé. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, il vaut mieux aller acheter un sachet de brocoli de brocoli surgelé à Lidl, par exemple. Ce sera toujours intéressant, plus intéressant de manger ça que d'aller choisir, par exemple, la pizza Lidl, déjà toute pleine de... C'est brut, c'est pas bio, c'est pas local, on sait pas... forcément, d'où viennent les brocolis parfois.
Les fibres sont là.
Les fibres sont là.
Il y a moins de vitamines peut-être, mais les fibres sont là.
Voilà, donc parfois quand on a un budget vraiment extrême, vaut mieux quand même continuer à acheter des produits un peu moins de bonne qualité, mais bruts, que du produit transformé dans tous les sens qui, en plus là, pour le coup, nous empoisonne, quoi. Donc voilà, c'est quand même intéressant de le savoir. Petite question pour le podcast. Quelles sont les bases à avoir chez soi? Et quel budget prévoir? Donc là, la question du quel budget prévoir, c'est un peu vague quand même. Mais pour toi, ce serait quoi les bases à avoir chez soi quand on veut manger santé à petit budget?
Alors les bases, déjà de remplir son congèle avec des légumes surgelés. Ça, pour le coup, et même pour pouvoir manger un peu varié niveau légumes dans des saisons où il n'y a pas vraiment ces légumes-là. Bon, par contre, bon, les courgettes surgelées, je trouve ça vraiment pas bon.
Grand nom, non, 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 jamais ça.
Mais bon, les poivrons surgelés, par exemple, ça peut dépanner en hiver, mais on a toujours, nous, dans notre congèle, chou-fleur, brocoli, épinards, petits pois, haricots verts. Ça, c'est vraiment nos bases. Et des fruits rouges surgelés aussi, pour pouvoir un petit peu varier. J'ai jamais trop essayé les autres types de fruits surgelés. Donc ça, on a pas mal de choses au congèle, plus des restes de plats, voilà, qu'on aurait fait d'avance. En base, dans les placards, conserves, là, on a haricots rouges, pois chiches. Bon, il y a d'autres légumineuses comme les flageolets ou les lentilles qu'on peut trouver aussi en bocaux, ou les haricots blancs. Les tomates concassées, les sauces tomates cuisinées, voilà, nous on aime bien les sauces tomates un peu à la provençale ou les trucs qui peuvent se mettre dans les pâtes ou sur une pizza rapidement, ou dans un gratin. Des boîtes de maïs, olives, voilà, des petites choses. Même on peut avoir des cornichons, des tomates confites pour agrémenter un peu les plats. Dans le placard, bah, les produits secs, hein, riz, pâtes, semoule, quinoa, deux, trois farines différentes. Nous, je sais qu'on a une farine blanche, une farine plutôt complète et souvent une farine de seigle, histoire de même pour les pâtes à tarte, faire voilà, des mix. Dans les placards, lait de coco. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Au niveau des poissons, c'est vrai que la question du poisson, niveau budget, c'est toujours un peu touchy. Moi-même, même si on habite près de la mer, le poisson reste super cher. J'ai encore vu chez le poissonnier du cabillaud à près de 40 euros le kilo. J'ai dit « Ah non, ce n'est pas possible !» Donc, thon, sardine, maquereau, ça c'est vraiment la base dans notre placard. Et pour le coup, quand tu trouves une boîte de maquereau à 1 euro la boîte, ta portion de protéines, elle ne coûte pas très cher. Donc ça, au niveau des poissons, on a souvent ça. Après, côté sucré, on a levure chimique, levure boulangère, les ferments lactiques pour faire nos yaourts, bouteilles de lait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Mais en fait, là, ce que tu es en train de tout citer, là, tu parles vraiment que des produits quasiment bruts que tu dois toi-même transformer. Et ouais, c'est ça peut-être aussi la différence.
Oui, parce qu'en fait, pour moi, le placard de base, c'est pas avoir une boîte de ravioli. Par contre, en produits parfois que j'ai pu acheter, c'était les bocaux, par exemple, de légumes à couscous, oui, ou ratatouille, où là, on peut trouver même en bio ou quoi, mais des compos qui sont très, très clean, avec la liste des ingrédients qui correspondrait à ce qu'on met, nous, dans notre casserole quand on cuisine. Mais on est sur principalement, oui, des produits à transformer, parce que il y a un moment, il va falloir se mettre à cuisiner et voilà, prendre un petit peu de temps dans son planning pour cuisiner. C'est ce qui va nous coûter le moins cher, ou en tout cas nous faire le plus de bien à notre santé, quoi.
Parce que nous, on le voit généralement quand on parle avec des abonnés sur Instagram ou quand on regarde d'autres, par exemple, vidéos YouTube, etc. Ce qui revient souvent, c'est oui, ça coûte, tout coûte très cher. Et quand on leur demande, par exemple, oui, mais c'est quoi, par exemple, ce que vous mangez ? Hier, j'ai eu le cas, et ça va être pizza surgelée. Enfin bref, ils vont me donner quand même une liste de produits, par exemple, t'es Chocapic. Mais je pense que c'est ça qui coûte cher, finalement, plus que les produits de base. Parce que quand on nous dit, oui, mais c'est cher, par exemple, d'aller sur le marché, chez le producteur, c'est plus cher que Lidl, par exemple. Lidl, c'est vraiment pas cher. Moi, je suis allée à Lidl, on est allée à Lidl avec Marisa pendant les fêtes. Moi, j'étais outrée parce qu'il y a quelques années, quand j'y allais, c'était vraiment pas cher. On était vraiment dans le hard discount.
Mais Lidl est monté en gamme. Hein. C'est devenu, c'est plus devenu du discount.
Je vois pas, moi, la différence. Moi, vraiment, en toute honnêteté, alors bien sûr, on la voit parce qu'on s'est amusé avec Marisa à aller sur la fourche, là où on fait nos courses, et à comparer les prix entre le bio Lidl et le bio la fourche. Bien sûr qu'il y a un petit écart, mais c'était vraiment des écarts genre 40 centimes, etc. Donc là, qu'on me dise à chaque fois, oui, mais c'est moins cher Lidl, vous faites des courses trop chères, je pense que c'est le contraire. Je pense que moi, je fais des courses moins chères, puisque dans tous les cas, comme toi, de ce que j'entends dans ta liste, il n'y a pas de produits transformés, enfin, ultra transformés, je veux dire. En effet, c'est à nous de tout transformer.
Non, nous,
et c'est ça peut-être aussi le souci pour plein de personnes, c'est je n'aime pas cuisiner, donc j'achète des produits qui sont déjà transformés. Mais ça, moi, je trouve que ça coûte cher.
Ça coûte cher parce que souvent, quand tu vois parfois des paniers de courses ou des caddies, je ne vois pas dans le caddie qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est un repas, en fait. Tu vois, c'est plein de petites choses qui sont mises les unes à la suite des autres dans le caddie. Mais pour moi, avec ça, je ne peux pas faire un repas. Moi, j'achète de la farine, j'achète de l'huile d'olive, j'achète des œufs et des choux-fleurs surgelés ou des brocolis, etc. surgelés. Avec ça, je vais pouvoir te faire un repas, mais plusieurs repas, en fait. Je te fais une fois des œufs sur le plat avec un truc. Demain, je te fais une quiche avec ma pâte, avec ma farine. T'achètes une pizza surgelée, t'as un repas unique.
À 4 ou 5 euros, t'as
un repas.
Un repas.
Mais à côté, tu manges que ça. Tu manges qu'une part. Si t'as 4 enfants, tu te donnes une seule pizza. Bah non, tu vas en prendre plusieurs. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus cher si tu ne penses pas au repas directement dans ton caddie, en fait. Moi, je pense plutôt en repas dans mon caddie qu'en truc tout fait, finalement. Mais ça peut répondre à cette question qui revient toujours, d'ailleurs, que j'ai vue, c'était... Comment, justement, ça qui est intéressant, on en a parlé tout à l'heure en off, comment on diminue du coup son budget alimentation si on veut très bien manger ? Tout à l'heure, on en a parlé en off. Comment toi, tu as décidé de diminuer ton budget alimentaire si tu veux manger bien ?
Raconte nous ta vie, Tiffany.
Non, mais il y a déjà une chose qui est factuelle et dont on parle toujours, mais je suis désolée, les amis. Pour manger déjà à petit budget, on supprime un peu de viande dans sa semaine.
Voilà,
déjà, c'est difficile pour certains.
Pour vous parler un peu des chiffres, parce qu'on aime bien le concret. Alors, c'est vrai que moi, j'habite dans la région nantaise. Et pour le coup, c'est vrai qu'on est dans une région quand même dans l'ouest, ou nord-ouest en tout cas, où les prix ne sont pas très chers. Donc, c'est vrai que si on compare les régions, le sud de la France, les régions très touristiques, les villes balnéaires... Les stations de ski, Paris, etc. C'est sûr que bah, pour un seul et même produit, bon, les gens auront différents prix. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire.
Donc, tu veux dire aux gens là, que pour diminuer leur budget alimentation, il faut changer de département et de changer de région ? C'est ça que tu veux dire ? Déménager ? Choisissez mieux vos régions dans lesquelles vous vivez ?
Non, mais c'est vrai que on ne peut pas trop se comparer là-dessus. Par contre, bon, nous, on est deux à la maison et on mange maison, matin, midi et soir, parce que mon mec, maintenant... Bah, il a sa lunchbox le midi, un reste ou quoi, une salade. Il ne mange plus du tout à l'extérieur. Donc là, pour le coup, ce qu'on mange, ce qu'on achète, c'est 100% de nos repas de la semaine. On va peut-être manger une fois à l'extérieur, mais c'est tout. On a notre fils qui a 20 mois, que j'allaite exclusivement depuis le début, donc pas d'achat de lait infantile non plus. Ça, c'est un des avantages de l'allaitement. C'est gratuit parce que des fois, on peut être à presque 100 euros de lait infantile par mois, donc ça reste aussi un budget. Sans du tout critiquer le choix de chacun et de chacune. Mais donc ça, et puis bon, pour l'instant, en plus, notre fils, il ne mange pas non plus des quantités astronomiques, il pique dans nos assiettes. Donc on va dire qu'on a entre 100 et 150 euros en fonction de si voilà, on a des invités ou si on achète des trucs extra, entre 100 et 150 euros par semaine pour 2,5, quoi. Voilà, à peu près. On n'arrive pas à descendre en dessous en mangeant bio.
Ah oui, c'est vrai.
Et sans, comment dire, sans devoir tout... Alors, je pourrais, en comptant tout, en vérifiant tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on prend un peu à la va-vite. Je ne compare pas forcément toutes les marques et peut-être que j'arriverais à moins cher si j'allais dans différents magasins. Mais bon, par raison de simplicité, on va dans un seul et même magasin. Mais on est à une bonne centaine d'euros quand même. En ne mangeant plus du tout de viande depuis un an et demi, en mangeant du poisson 2-3 fois par semaine, mais ça va être principalement ce que je vous ai dit, du thon, de la sardine, du maquereau ou un peu de saumon fumé, voilà. Mais on est quand même sur des quantités assez limitées. Quand on ouvre une boîte de thon, elle est pour deux. Mmh. Voilà. On a décidé de réduire les quantités, de pas beaucoup, hein, mais en tout cas de ne plus se faire des assiettes énormes, d'avoir plat dessert, etc. à chaque fois, de se poser les questions de... Est-ce que j'ai vraiment faim pour prendre quelque chose après mon repas ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de manger un petit peu moins, voir ce qui se passe, quitte à manger un bout de pain à côté ? Mais voilà, on mange un tout petit peu moins, on achète un petit peu moins de légumes, on a pas mal de surgelés en dépannage. Et pour le coup, on va toujours bien, on n'a pas perdu de poids ni rien. Hein, mais c'est vrai que le fait de ne plus manger de viande, de manger ponctuellement du poisson... quitte à prendre quelques compléments alimentaires à côté si on a besoin pour remplacer. Et puis, de manger un petit peu moins, de manger entièrement maison et d'arriver à faire des trucs un peu fond de placard, on s'en sort pas trop mal de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'on en est à une centaine d'euros par semaine. Après, bon, on n'a pas de... Oui, on n'a pas de tabac, d'alcool, de resto, on n'a pas de salle de sport... On a réduit au minimum nos différents abonnements à droite à gauche. On paye quand même la nounou, hein. Je donne les repas aussi à la nounou, donc c'est aussi quand même des sous à sortir. Mais là, pour le coup, ouais, pour l'instant, on s'en sort de cette façon-là. Et le fait de manger moins de viande, ça nous a aidé. Au départ, quand on mangeait encore de la viande, mais très peu, hein, juste avant d'arrêter, on commençait à acheter quand même des plus petites portions. Je sais que dans une de vos vidéos, vous parliez de couper le poulet en petits morceaux pour que ça nous paraisse plus gros dans l'assiette. Et c'est vrai que c'était ce qu'on avait déjà commencé à faire. Plutôt que d'acheter une grosse escalope de 200 grammes de poulet pour deux, eh ben, on achetait 120, 130, 150 grammes max. Et il n'y avait pas l'inflation. C'était déjà cher alors qu'il n'y avait pas encore l'inflation et la crise d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en la coupant en petits bouts, machin, en fait, on s'en satisfaisait largement.
Oui, bah c'est vraiment l'astuce pour moi ultime qu'on avait partagé dans un épisode de podcast. Pour moi, c'était vraiment un truc bête et méchant, mais finalement, tout le monde avait repris ça après les boulettes. Enfin, quand on achète la viande hachée, vous faites des petites boulettes de viande dans la sauce tomate. C'est des toutes petites boulettes. Nous, c'était notre mère qui faisait ça à l'époque, quand parfois nous avions des petits problèmes d'argent à la maison. C'est vrai qu'on s'est jamais rendu compte, nous, qu'on avait des problèmes financiers à la maison parce qu'on mangeait toujours aussi bien, sauf que ma mère, elle faisait plutôt qu'acheter un sac haché par personne, un steak haché par personne, là en effet ton budget inflation il est mort quoi. Tu prends un steak haché ou deux, bah, je sais pas, vous êtes trois enfants, voilà, vous prenez deux steaks hachés que vous mettez en toute petite boule dans de la sauce tomate, ça vous fait quand même plus de quantité que bah, si tu faisais deux steaks hachés, là on va le diviser pour cinq, là tu te dis ah. C'est peu cher. Et en plus, si à côté vous rajoutez dedans par exemple du pois chiche pour rajouter un petit peu ou casser des œufs. Nous, à l'époque, on cassait des œufs dans la sauce tomate et tout pour faire une sorte de tagine aux œufs kefta. Bah, c'est vrai que souvent, moi, je trouve aussi, si vous regardez chez les peuples, parce que nous, on est une société, nous, on parle en France, on est en France métropolitaine, donc on est privilégié quand même, on est en Occident, on a quand même accès à la nourriture tout le temps, partout, tous les jours, de façon, enfin, les supermarchés, pour moi, c'est un enfer. Enfin, je veux dire, les rayons sont beaucoup trop rempli, mais si vous regardez les populations comme au Maghreb, en Afrique noire, je vois Samuel à Haïti, en Inde, etc., la nourriture à table, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas un steak haché par personne, en fait. C'est vraiment des petites portions, mais on va mettre voilà, les légumes secs, beaucoup. Hein, c'est des pays où on mange énormément d'haricots rouges. Pourquoi on mange énormément de lentilles, de pois chiches? C'est pour toutes ces raisons-là. Ça apporte des protéines, de la consistance, tout en n'étant pas tout misé sur de la viande et du poisson, ce qui est infaisable dans certains pays. Donc moi, je trouve que parfois, il faut juste aussi se rappeler que nous, on mange trop, qu'on mange quand même, on est une société où on mange énormément, où la nourriture fait partie de nos hobbies, plus que d'ailleurs, parfois, je pense qu'on mange plus par hobby que par besoin, parce que je pense qu'on mange quand même beaucoup trop pour nos besoins aujourd'hui.
On est gourmand. On dépasse nos besoins.
On dépasse, voilà. Est-ce qu'on dépasse beaucoup nos besoins? Est-ce qu'il y a des études comme ça où tu saurais pas Moi, je pense que c'est sûr qu'en Occident, on mange
On dépasse beaucoup nos besoins dans les pays anglo-saxons.
Oui.
Après, la France, notamment, on n'est pas un pays où il y a un très, très fort taux d'obésité par rapport aux autres pays, même s'il y a quand même des problèmes de poids. C'est pas le cas des États-Unis. Donc, je pense qu'on ne dépasse pas non plus de fou nos besoins, parce que sinon, on aurait beaucoup plus de problèmes de poids en France.
Mais est-ce qu'on n'a pas d'autres problèmes que le poids?
Ce que j'allais dire, on a d'autres problèmes que le poids. Oui, nous, on a beaucoup de dépression.
Oui, par contre, il y a plus de... Enfin, les gens vont mal...
Les maladies chroniques en règle générale.
Troubles digestifs, maladies inflammatoires, maladies auto-immunes. Oui, de toute façon, le poids ne reflète pas la santé de quelqu'un. Ouais.
On n'en parlait pas de toutes ces maladies il y a encore 20 ans. Le SIBO, toutes ces nouvelles
c'était
maladies.
C'était moins diagnostiqué aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait mal au ventre, on disait c'est un fait, j'aurais mal au ventre toute ma vie. C'est comme même... Bon, moi, j'ai un problème de thyroïde. On a l'impression que maintenant, tout le monde a un problème de thyroïde, mais c'est juste parce qu'on s'y penche davantage. On est plus à l'écoute des gens, de leurs symptômes. Sur une consultation médicale ou paramédicale, on ne va pas faire... comment dire? On ne va pas rendre certains mots banals ou quoi. On va peut-être un petit peu plus s'y pencher. Donc, il y a quand même plus de diagnostics. Mais après, on mange plus par gourmandise. Moi, je le vois à la maison. Je ne suis pas du tout gourmande. Je ne mange jamais de goûter. Je ne prends pas un dessert parce qu'il faut prendre un dessert. Je vais plutôt être addict au café. mais bon, je vois mon conjoint qui écoutera sûrement cet épisode. Lui, il faut manger du sucré à la fin du repas, il faut se faire un dessert, il faut utiliser bon, du yaourt, des trucs, des machins, de la compote ou quoi, du chocolat, du granola, un bout de gâteau qu'on aurait fait, pour terminer sur du sucré, quitte à en avoir mal au ventre parfois, quoi. Donc ça, forcément, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas gardé ces aliments-là pour le petit-déj demain matin, ou enfin, est-ce qu'on en avait vraiment besoin, est-ce que ça valait le coup? Ça, après, c'est du travail, c'est du cas par cas sur bon, le comportement alimentaire. Est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à compenser? Mais ça, c'est plutôt un suivi psy qu'un suivi diète. Et puis ouais, vraiment être plus à l'écoute, parce que le problème, c'est qu'aussi, en France notamment, on a été élevé au schéma, je prends des fois, l'entrée, ça se fait plus trop.
Non,
mais il y avait l'entrée, le plat, le yaourt, machin, etc. Mais en fait, dans beaucoup d'autres pays, ils ne mangent pas de dessert. Enfin, ils ont le plat et puis ils passent à autre chose. Pour en revenir aux quantités de protéines et de viande là dont on parlait, il y a aussi le fait que, par exemple, bah, on mange, les enfants notamment, parce que les adultes parfois non, mais les enfants mangent trop de protéines. Hein. Donc, intéressez-vous à ce qu'a mangé votre enfant à la cantine le midi ou chez la nounou, si vous n'avez pas préparé les repas. Parce que le soir, souvent, on peut juste faire un plat végétarien, des féculents, des légumes, et pas forcément remettre de la viande ou du poisson le soir. D'une, ça peut coûter cher, et de deux, c'est pas nécessaire et c'est pas forcément bon pour eux, parce que bah ils en ont pas vraiment besoin, quoi.
Bah quand on se rappelle sur la plateforme que Karine disait que la viande qu'on devrait manger, c'est la taille de sa paume de main, une quantité journalière de viande, ce serait la paume de protéines, ouais, pardon, c'est la paume de sa main.
Donc, tout le monde regarde sa paume de main de l'enfant,
c'est pas la même.
C'est pas la paume de ton enfant.
Et quand après t'apprends qu'à l'école ton enfant il a mangé genre la tranche de jambon entière, bah c'est sûr que moi le soir, alors moi ma fille mange pas à la cantine, mais je sais que ma mère peut avoir tendance à donner facilement limite un steak haché entier à ma fille de 3 ans et demi. Tu peux être sûr que ni le soir elle mangera de viande, ni le lendemain midi par exemple.
La quantité de viande ou de poisson ou même d'œuf chez les enfants par jour, c'est l'âge x10 à plus ou moins 10 grammes. C'est-à-dire que...
Je vais faire la paume.
Non, mais en gros, ta fille, 3 ans, x10, 30 grammes, plus ou moins 10 grammes, 40 grammes, 30 à 40 grammes de viande ou de poisson par jour.
Mais quand tu pèses pas.
Quand tu pèses pas, oui, après, c'est compliqué, hein. C'est à peu près le poids d'une tranche de jambon si elle est fine.
Ah oui, ouais.
Voilà. Mais on est, en général, un paquet de jambon, ça fait 160-180 grammes, il y a 4 tranches dedans, quoi.
Donc toi, un jambon qui vient d'un producteur, c'est...
C'est beaucoup trop lourd.
C'est une demi.
Ouais.
Mais en gros, jusqu'à 10 ans, si tu fais 10 fois 10, 100, un steak haché, ça fait 100 à 125 grammes. Jusqu'à 10 ans, un steak haché...
C'est miette.
Bah, à 10 ans, un steak haché, c'est la quantité max de la journée. Après, hop, il n'y a plus.
Ouais. Donc, rien que ça, on se rend compte que... Déjà, on me disait, on mange trop. Ça, c'est évident. On mange trop. Mais même moi, hein, moi, je tape la main de personne parce que je pense qu'on est tous quand même à manger plus que nécessaire. Sachant qu'en plus, qu'on disait tout à l'heure, sans plus se dépenser. Aujourd'hui, on n'est pas non plus un peuple d'agriculteurs ou de nomades qui marchons toute la journée ou avons des travails absolument éreintants. Il y en a, bien évidemment. Mais c'est pas partie de la majorité des gens en France. Et en fait, on mange beaucoup alors qu'on est hyper sédentaire.
On est sportif sédentaire.
Oui.
Moi, en fait, il y a... c'est vrai que c'est ce que je dis à certains patients, c'est que la sédentarité, par définition, c'est de passer 6 à 8 heures assis par jour. Qu'on ait couru 10 km ou pas, quoi.
Oui.
C'est pas parce qu'on a couru 10 bornes le matin avant d'aller bosser... qu'on est actif, parce que certes, on aura fait les 10 000 pas sur la montre, mais par contre, on aura été assis de 9h à 18h, et on aura mangé devant l'ordi, et on sera resté à la cantine le midi ou quoi, enfin, on n'aura pas été marcher sur la pause déj ou quoi, donc je dirais qu'on est très très sédentaire, et même en faisant nos séances de sport, on a certains besoins, hein. C'est sûr que les sportifs ont un peu plus de besoins, mais malgré tout, même l'hiver, les hivers ne sont pas si rudes. Ben, on voit très bien qu'il ne fait pas du tout froid cet hiver, par exemple, hein, ou alors quelques jours sporadiquement. Donc, on n'a pas besoin de manger autant. Donc, il y a une question de quantité. Il y a une question de quantité. Faire varier les portions dans l'assiette de chacun des membres de la famille aussi. C'est que moi, je vois beaucoup, par exemple, de couples où c'est souvent la femme qui se met à manger autant que l'homme. Voilà, par automatisme, par mimétisme, parce qu'on fait un plat, bim, on divise par deux. On ne prend pas le coup d'en mettre de côté, c'est-à-dire que quand il en reste un peu dans le plat, plutôt que dire, bim, je mets dans un tupperware, je garderai pour le lendemain, on se dit, on va finir. Et du coup, ça nous oblige à recuisiner le lendemain ou quoi, alors qu'en soi, on avait plus faim, on aurait pu garder un reste de gratin, l'accompagner de carottes râpées le lendemain, ça nous aurait fait un plat pas gratos, mais en tout cas, on n'aurait pas réutilisé des aliments dans la... Donc après, voilà, c'est juste être un peu plus à l'écoute, ne pas se forcer à finir certains plats, apprendre à faire des restes, à congeler, à remanger pour le lendemain. C'est notamment pratique quand on doit faire sa lunchbox et ne pas devoir cuisiner 1000 choses différentes pour tous les jours. Et puis, faire manger, que les enfants mangent moins que les adultes, et même entre les adultes, faire varier les portions, quoi.
Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les protéines? Parce que c'est vraiment là, ce qui est revenu le plus, hein, je vais pas te mentir, c'est comment on fait pour manger sainement et avoir des protéines sans plomber son budget, puisque c'est vraiment le... Je pense que on est le peuple... Enfin, en Occident, c'est là, je crois que c'est en Occident qu'on se pose le plus de questions sur les protéines.
On a peur de la carence
en protéines, alors que en vivant en France, ou en tout cas dans des pays développés, il y a quand même peu de possibilités d'avoir des carences en protéines. Mais est-ce que tu pourrais faire un petit rappel quand même sur les protéines, pas un truc scientifique de fou, mais pour un peu calmer et apaiser surtout les gens face à ça?
Alors déjà, bon, c'est vrai que il faut pas avoir peur de manquer de protéines. Alors sauf si vraiment on mange que des pâtes au beurre et des pâtes et des courgettes, si on supprime la viande et le poisson, moi je le vois beaucoup dans mon boulot, si on supprime la viande et le poisson sans jamais le remplacer, on va pas être carencé en protéines, parce que la protéine c'est pas un truc qu'on va doser dans le sang, on n'a pas un complément en protéines ni rien, mais par contre on va peut-être prendre du poids, perdre en masse musculaire, ça c'est possible. Mais les protéines, déjà, c'est relatif au poids de corps de chacun, donc c'est pour ça que on peut pas trop comparer nos différents besoins en protéines, ça dépend de notre gabarit, mais globalement, en mangeant de la viande et du poisson tous les jours, normalement, on le couvre facilement. Si on les enlève, bon, va y avoir forcément les légumineuses qui coûtent très peu cher, mais bon, on va pas en manger midi et soir aussi parce que nos intestins après vont pas trop apprécier. Il faut pas oublier les œufs qui sont quand même bien moins chers. On en a parlé en off là avec Marisa tout de suite, mais l'œuf, c'est 35 centimes l'unité, l'œuf bio aujourd'hui. On mange en général 2 œufs dans un repas quand on se fait un repas, 70 centimes la part de prot. C'est pas très cher, ça équivaut à 40 grammes de viande ou de poisson, quoi. Enfin voilà, donc c'est vraiment pas du tout cher. Donc il y a les œufs qu'on peut mettre à toutes les sauces, on peut manger salé le matin ou mettre des œufs dans des pancakes ou quoi le matin, et ça permet d'avoir des protéines qu'on peut du coup derrière retirer par exemple du repas du soir. Donc voilà, ça déjà, le fait de manger des protéines le matin, les produits laitiers aussi, et notamment les produits laitiers les plus compacts, puisqu'en fait plus c'est compact, plus c'est riche en protéines, donc on aura beaucoup plus de protéines dans les yaourts de brebis, les fromages blancs, le skyr, les petits suisses, que dans un yaourt brassé ou dans du lait liquide. Les fromages, pareil, plus on va prendre des fromages à pâte dure, des fromages secs, plus ils seront riches en protéines. Donc, quand on met du fromage râpé, du comté, du parmesan, c'est beaucoup plus protéiné que quand on met du chèvre frais.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, si on veut juste faire des pâtes avec des petits légumes, de la sauce tomate, si on met du parmesan dessus, bim, tout de suite, on gagne quelques protéines. Ça va pas remplacer non plus un steak, mais c'est toujours ça de prix. Le fait de prendre les céréales complètes, enfin les pâtes complètes, tout ce qui est complet va être un peu plus riche en protéines que ce qui est blanc.
Surtout si on n'oublie pas la paume de la main, c'est ça, je pense que c'est intéressant, ou par rapport à tes grammages si vous pesez. Parce que si vous regardez votre paume de main, c'est ça que vous devez manger dans la journée. Donc c'est vrai que peut-être que cette peur des protéines, cette impression qu'il faudrait manger le matin du jambon, le midi, je me fais deux œufs sur le plat et le soir, je me fais un bœuf bourguignon. Là, votre paume, vous en avez mangé pour la paume de votre famille entière.
Bah, la paume de la main, c'est surtout viande, poisson et œufs. Oui. Après, les protéines, le truc, c'est qu'on les acquiert avec tout le reste. C'est-à-dire, on va avoir des protéines dans les céréales, les légumineuses, les produits laitiers, donc les fromages et les laitages les plus compacts. Dans les oléagineux aussi. Les purées d'oléagineux à prendre le matin et puis après mettre des graines de courge, des graines de tournesol dans les plats, des petites cacahuètes, des petites noix de cajou sur des plats asiatiques par exemple, saupoudrer le germe de blé ou de la levure de bière aussi sur les plats. On va grappiller des petites protéines partout, hein, la petite cuillère de spiruline en poudre là qu'on pouvait mettre au petit-déj aussi de temps en temps. Voilà, on va réussir à avoir suffisamment de protéines avec tout ça, mais c'est vrai que si on mange très sucré, peu protéiné, qu'on supprime la viande et le poisson, qu'on remplace pas, qu'on n'a pas de tofu, rien en fait comme alternative, on peut manquer de protéines, il n'y aura pas de carence en protéines, mais pour le coup, on peut physiquement ne pas se sentir très énergique, et puis si on fait du sport en même temps, ne rien voir de résultat en fait hein, sur notre corps.
Mais en fait, c'est parce que je pense que les gens, ils associent aussi beaucoup la protéine avec la viande et le poisson, alors que la protéine, finalement, si on a une alimentation variée, comme tu disais, fromage, œufs, lait, graines de tournesol, on peut trouver finalement dans pas mal d'endroits.
Et sans se rendre compte qu'on mange protéiné. Oui. C'est, ça aussi, on en parlait beaucoup sur la plateforme, quand des gens disaient « mais ça vous suffit de manger par exemple une tarte le soir ?» Mais la tarte, t'as fait une béchamel, t'as mis du fromage, t'as peut-être mis, par exemple, je sais pas moi, un des petits lardons, mais genre peut-être 50 grammes, mais n'empêche, plus des œufs que t'as battus.
Ouais, plus les œufs, plus t'as utilisé une farine de sarrasin ou une farine de sec dans la pâte.
Bah, tout ça, ça fait que quand même, mon repas le soir, ok, j'ai peut-être pas mon steak, mais en soi, j'ai un repas qui a des protéines et qui est suffisamment protéiné pour le soir.
En fait, sans viande ou poisson, ça va être l'accumulation de plein de petites sources. Mmh. Voilà. Mais il faut qu'elles soient là. Mais en tout cas, on peut y arriver en additionnant tout. Mais encore faut-il que tout soit dans nos placards.
Alors, justement, quelle question intéressante qui va être plus concrète pour les personnes qui nous... Enfin, quand nous, on parle facilement. C'est vrai que nous, on est trois personnes qui aimons beaucoup faire la cuisine, etc. On a des facilités, c'est la vérité. Donc, quelles sont les recettes concrètement que l'on peut faire avec un petit budget, nous demande Cécile.
La quiche.
La quiche, voyons, une bonne quiche
que Tiffany mange toutes les semaines.
Ah oui, mais toutes les semaines. Mais aussi parce qu'on sait que mon fils la mange très facilement et qu'on aura notre repas du lendemain. Mm. Voilà, on la divise en 4 ou en 6 si notre fils tape dedans. Mm. Et puis voilà, ça, on sait que... et puis c'est très versatile, hein. On peut changer toutes les semaines la garniture. Enfin bref, c'est déclinable à l'infini. Tout ce qui est plat avec des légumineuses, hein, les curry de lentilles, un dalle de lentilles par exemple... 4 ingrédients, hein. Du riz en accompagnement, des lentilles, une boîte de lait de coco, une boîte de concassée de tomates, un peu de curry et c'est fini, quoi.
Et en plus, vous pouvez même, si vous voulez, ne même pas mettre de lait de coco et mettre un autre lait moins cher en plus, hein, parce que ça marche très bien aussi. Hein. J'ai déjà fait plusieurs fois quand j'avais plus de lait de coco. Ça marche très bien, c'est très bon.
Donc, il y a ça, tout ce qui est les soupes avec des tartines de quelque chose. Qu'est-ce qui peut être peu cher? Bon, bah, tout ce qui est gratin. En fait, tout ce qui est un peu plat familial et qui ne va pas être un plat un peu one shot ou même une salade composée. Hein. Je sais que, par exemple, une salade composée avec du riz, des petites crudités, les betteraves cuites en sachet, là, ça coûte pas du tout cher. Hein. On est à 1 € et quelques les 500 grammes. bah ouais, mais je fais toujours les courses, alors du coup, je connais un peu les prix. Mais c'est vrai que la boîte de maquereaux qui coûte 1 € et des patates, si on la divise en deux, 50 centimes par tête, ça ne fait pas grand-chose en termes de budget de protéines. Donc ouais, toutes ces plats qui vont avoir très peu d'ingrédients, qui vont souvent pouvoir être mangés en plusieurs fois aussi. Plus on fait gros, on multiplie pas le prix du plat si on l'agrandit. Voilà, enfin, ou très très peu. Donc ça, et puis après, bon, bah, si on utilise des légumes surgelés, c'est aussi assez, pour certains moins cher au kilo que certains légumes frais. Respecter la saison pour avoir en tout cas des produits qui seront dans les meilleurs tarifs possibles.
Toi, comme tu as tu as un bloc-notes où tu notes tes repas de semaine. Toi, tu as la quiche qui revient beaucoup en repas simple du quotidien. Tu as les salades composées. Je sais que tu fais quand même pas mal de salades
beaucoup
composées.
Beaucoup de salades composées. Salades avec pommes de terre, haricots verts surgelés, boîte de thon, quelques olives et hop, c'est fait.
Les soupes. Je crois qu'on est trois adeptes de la soupe. Le soupe le soir, c'est quand même la soupe. Non, moi, t'en fais moins, toi?
Bah, j'aime pas trop manger liquide. Je fais jamais, je fais quasiment jamais de smoothie. Je dois en faire un ou deux par an.
D'accord. Parce que c'est vrai que la soupe, tu peux la faire. T'es obligée de mixer une soupe.
Ouais,
ça, bah,
en fait, je la fais très très purée, enfin un peu très onctueuse. Pareil, les compotes. Moi, je mixe pas mes compotes. D'accord. Je fais des pommes cuites que j'écrase légèrement.
Donc, tu sais, t'as des soupes à base de lentilles, les soupes de pommes de terre que tu as les morceaux dedans, les petits pois.
Alors,
que
on
tu
laisse
peux...
pas les morceaux nous, mais on les mixe et dedans on met des noix. Enfin,
d'accord. Oui.
Voilà, pour
oui.
que ça croque un peu. Oui. Et puis à côté, j'ai
Une petite tartine bruschetta.
Ou alors, je fais une rillette de poisson avec du Saint-Morin, une boîte de thon, et puis après, voilà, on se fait des tartines comme ça.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a qui revient toutes les semaines? Tout ce qui est un peu un curry. Moi, mon curry de lentilles, lait de coco avec des épinards surgelés et du riz, c'est nickel. La quiche qui nous fait deux repas. On aime bien faire des faritas. Donc, on achète des wraps et puis dedans, on met un peu d'avocat, un peu de maïs, de haricots rouges à la sauce tomate, un peu de fromage, voilà. Qu'est-ce qui revient souvent? L'omelette garnie.
La base, j'allais dire, moi, l'omelette, évidemment.
Là, ouais. Patates, un peu de brocoli, hop, on bat des œufs par-dessus et hop, ça, c'est un peu de fromage et c'est fini. Ouais, c'est principalement ce type de repas, le gratin pomme de terre, chou-fleur, thon à la béchamel aussi. Mais en fait, on a des repas qui reviennent toutes les semaines. On va parfois changer un tout petit peu la garniture, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure au niveau de manger varié. En soi, je ne pense pas qu'on mange extrêmement varié à la maison parce qu'on a les mêmes repas qui reviennent toutes les semaines parce qu'on adore ça. Mais on mange très rarement plusieurs fois de suite la même chose. Après, on a nos bases, hein, la quiche, le gratin, tout ça. Mais on va parfois légèrement varier la garniture, varier le légume pour avoir cette impression de manger vraiment varié, mais en respectant la saison. De toute façon, tous les 3-4 mois, les menus, la courge farcie, ces trucs-là, ça revient toutes les semaines. Et puis, ça changera quand les fruits et légumes changeront, mais... Ouais, hier soir, on a mangé une courge farcie, une butternut que je fais rôtir. Je récupère la chair, que je mélange avec d'autres éléments. Je regarnis, je mets un peu de fromage et puis au four. Donc, j'ai avec de la sauce tomate, avec des oignons, tout ça. Et puis après, je repasse au four. Et ça, pour le coup, c'est hyper consistant. On mange chacun une demi-butternut et franchement, après, on n'a plus faim.
Ah oui, bah largement. Ouais. Déjà, une demi-butternut.
On achète les plus petites possibles. Ouais.
Est-ce qu'il y a des aliments, Pauline nous demande, est-ce qu'il y a des aliments qu'il est important en cette période justement d'inflation et où on veut rester en bonne santé? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont importants de consommer souvent? Elle dit par exemple, comme les œufs, 4 fois par semaine.
Moi, je conseille 1 à 2 œufs par jour.
D'accord. Est-ce que tu vois...
Alléluia.
1 à 2 œufs par jour, oui. Parce que j'ai... Le cholestérol.
Non, j'avais peur de ta réponse, ça te fait. Parce que moi, j'étais là. Moi, je mange presque... Alors,
non, on en achète beaucoup, franchement.
Non, beaucoup.
Moi, j'en ai c'est 18 par semaine.
J'en achète une vingtaine par semaine parce qu'il y a aussi la pâtisserie.
Oui, et pourtant, gâteaux. Moi, j'en achète 18 par semaine. Hein. Nous sommes 3 à la maison. Hein. Et généralement, moi, le jeudi...
Et ouais. Au bout d'un mois, il n'y a plus.
J'ai plus. Ouais. Et là, je suis là. Ah ouais, mais en même temps, pâtisserie, pancake, et puis omelette, ça va vite.
Franchement, moi, je fais des œufs durs pour une salade. Et puis après, tiens, une quiche, j'en mets 3 ou 4. Et puis tiens, à faire un banana bread, j'en mets 2. Voilà. Et puis tiens, un bowl cake le matin, j'en mets 1. Et puis en fait, après,
c'est parti,
plus
d'œufs.
Voilà. Donc non, pour la santé, vraiment, l'œuf, c'est la protéine de référence. Hein. De toute façon, on compare les aliments par rapport à l'œuf pour savoir s'ils sont bien composés ou pas. Donc, 1 à 2 œufs par jour. En ce moment, au moins un kiwi ou un agrume par jour pour la vitamine C, notamment le kiwi jaune. Alors, ça reste, il est plus onéreux. Mais déjà, un gros kiwi vert, on couvre 90% de notre besoin en vitamine C.
Chez nous, en ce moment, c'est tous les matins kiwi. Et là, ce matin, je lui ai fait un petit jus d'orange. Alors, elle adore le jus d'orange, donc c'est passion jus d'orange. Mais le kiwi, c'est le best fruit de l'hiver, quoi. Je veux dire.
D'avoir chaque jour.
Parce qu'on est en hiver, faut le dire. Parce que si vous écoutez ça en plein mois de juin, vous allez vous dire what, kiwi?
La vitamine C en été, c'est plus compliqué de la couvrir.
Oui.
Après, bon, on est moins vulnérable, moins exposé aux maladies, donc on en a un peu moins besoin pour l'immunité. Mais l'été, ça va être plutôt poivron, brocoli, fruits rouges. Voilà, pour la vitamine C.
Est-ce qu'il y a dans la grenade, il y a la vitamine C?
Un peu, grenade, chou rouge aussi.
D'accord, ok.
C'est secondaire, mais il y en a un petit peu. Et après, pour les vitamines du groupe B, pour l'énergie, pour le métabolisme, tout ça, en fait, c'est un panel d'aliments à manger presque quotidiennement. Graines oléagineuses, légumineuses. J'ai parlé un peu de la levure de bière, en fait, à saupoudrer vraiment partout. Il faut que quelques grammes, mais ça marche bien. les légumes verts, les céréales complètes, et puis, mais vraiment au niveau des végétaux, au niveau des même des protéines, les poissons gras 2 fois par semaine, si c'est possible. Alors, ne pas manger que du saumon pour pas que ça soit trop riche en métaux lourds. Mais si on peut avoir une boîte de sardines, une boîte de maquereau chaque semaine, voilà, au moins un œuf par jour, quelle que soit la forme, ça peut être dans du sucré, dans du salé ou tel quel dans l'assiette, n'importe. Un agrume ou un kiwi par jour, et déjà avec ça, et puis des petites graines ou quoi, mais déjà avec ça, ça sera bien.
Non, c'est bien. C'est très intéressant ce que tu dis. Je te kiffe, toi. C'est trop bien.
J'aime trop parler avec toi.
Franchement, tu sais quoi ? Je l'aime trop, elle.
Ouais, moi aussi, je l'aime trop.
Et j'ai l'impression d'entendre Karine en des années plus jeunes. Si Karine avait été... Non, mais si Karine avait été dite saine à son âge.
Oui.
Parce que j'ai l'impression... À chaque fois, je me dis, mais j'ai envie d'entendre ma sœur, en fait. Ce côté... Oui, un kiwi, une orange, c'est très bien, tous les jours. Et c'est elle, en plus, qui m'avait fait dédramatiser aussi les œufs, ouais. Parce qu'à l'époque du healthy...
Le cholestérol de l'œuf oui. Ne donnera pas de cholestérol sanguin.
Et bien, c'est ce que tout le monde, à l'époque, c'était tellement un truc de ouais. Ouf. Du coup, tout le monde arrêtait de manger des œufs.
Je pense que ça s'est démystifié maintenant un petit peu.
Un petit peu. Mais pour ceux qui restent encore durs et, tu sais, faire enfermer encore dans le healthy, la healthy attitude, où il ne faut plus manger rien, dont les œufs, moi, 4 œufs par semaine, moi, j'en suis incapable. Hein.
Mm-hmm. Ah bah non, parce que moi, les 4, ils partent dans une quiche. Je ne peux pas. Mais ouais, après... Bah, c'est des petites astuces du quotidien, mais c'est vrai qu'à la maison, on n'est jamais malade, on n'a aucun problème de santé. Et on a voilà, notre petit complément en vitamine D, nos apports en vitamine C. On fait attention aux fibres, on mange très riche en fibres avec les légumineuses, les graines, les céréales. Mais comme on est habitué, on dirait qu'on a un microbiote qui est quand même bien composé, je pense, on peut tout digérer. Hein. Franchement, à la maison, on est un peu... Comme ça, vraiment.
Bah justement, par rapport aux compléments alimentaires.
On pourrait avaler un boulevard quand même. Il y aurait tout qui passe.
Marine nous demande, peut-on manger équilibré
ouais.
Et sainement sans avoir recours aux compléments alimentaires? Et sinon, est-ce que tu as des recommandations de compléments alimentaires? Alors, est-ce que c'est obligé de manger, d'avoir des recours aux compléments alimentaires pour être en bonne santé?
Alors, ça dépend de notre régime alimentaire. Les compléments alimentaires, il y en a qui... Alors, la vitamine D l'hiver pour tout le monde, entre octobre et avril, à peu près.
Donc, pas que pour les enfants, parce que généralement, nous, oui, on nous dit sur les réseaux, c'est que les enfants.
Oui. Et puis après, on oublie ouais. De la prendre.
Nous, on nous le dit tout le temps sur les réseaux, mais vous prenez vous aussi? Bah oui, parce qu'en fait, j'ai appris, mais ça aussi, hein, c'est avec des années d'expérience, hein, je prenais pas
nous
ça il y a encore 3 ans.
Enfants ou adultes, oui. Ce sont des êtres humains.
Oui. Mais c'est vrai qu'on en parle toujours, le pédiatre va en parler facilement, mais c'est vrai que nos médecins ne nous disent pas l'hiver, par exemple, quand on va chez le médecin, il nous dit pas, n'oubliez pas votre cure de vitamine D. Mmh. Moi, j'ai jamais entendu ça, et encore, nous, c'était quoi? Nous, on était métis, on est métis. On nous disait toujours, à l'époque, ouais. Prenez une ampoule, souviens-toi, dès qu'on avait un petit coup de fatigue, oh, ça fait longtemps que le médecin il disait, ça fait longtemps qu'on nous a pas donné une ampoule, donc on nous donnait une ampoule. En plus, maintenant, tu sais que c'est pas quelque chose de très efficace, une ampoule, one shot, comme ça, ouais. Etc. Mais on ne nous disait pas, comme on va te dire maintenant, ou comme je le lis sur ton compte Instagram, comme je lis sur d'autres comptes Instagram, vitamine D tous les jours. Mais à l'époque, moi, nous, on ne savait pas ça.
En fait, les peaux mates et foncées absorbent moins les rayons du ouais. Soleil. Vous ne cramez pas comme moi, je pourrais cramer parfois en 5 minutes. Voilà. Et donc, plus on a la peau mate et foncée, moins on bronze facilement. Et donc, moins les rayons du soleil pénètrent votre peau. Et c'est comme ça que la synthèse de vitamine D se fait. La vitamine D, elle se synthétise par les mêmes rayons que lorsqu'on bronze ou lorsqu'on crame, quoi. Donc, c'est vrai qu'en plus, en fonction de la couleur de notre peau, on doit plus ou moins se complémenter aussi l'été. Hein. Donc, parfois, c'est aussi l'été et pas que l'hiver. Donc non, après, on peut très bien ne pas avoir recours aux compléments alimentaires. Mais le problème, c'est que quand on est végétarien, végétalien, la B12, c'est systématique. Les oméga-3 aussi, quand on consomme plus du tout de poissons gras. Le magnésium, c'est très difficile de couvrir notre besoin. Le stress du quotidien épuise complètement le magnésium. Le magnésium aide à l'absorption de la vitamine D. Enfin bref, tout est hyper relié. Donc On peut faire des cures de magnésium aussi très régulièrement quand on se sent un peu épuisé et un peu au bout du rouleau. Et puis qu'on a des crampes, qu'on ne se sent pas bien, voilà. Le truc, c'est qu'on aura beau manger des légumineuses, de la viande rouge, de la spiruline, c'est parfois pas suffisant, surtout avec les grossesses, les règles tous les mois, si on donne son sang, si on mange de moins en moins de viande, qu'on fait beaucoup de sport cardio, course à pied ou quoi, l'alimentation va vraiment pas suivre. Donc ça, le faire sur bilan sanguin, faut bilanter pour savoir si on est vraiment carencé, mais des fois, c'est non négociable. On peut avoir une alimentation sans complément alimentaire, mais par moment, pour l'immunité l'hiver, la vitamine D, si on est stressé, si on mange plus de viande, si on est très sportif, il va falloir
faire un bilan. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles ? Ça veut dire que magnésium, tout ça, pour moi, j'entends, mais comment je sais, je vais où, auprès de qui je me renseigne pour savoir si j'ai besoin d'être supplémentée ?
En magnésium, il n'y aura pas de bilan sanguin, il n'y aura pas de dosage particulier. Le magnésium qu'on peut doser dans le sang, en fait, il n'est pas représentatif de nos apports et de nos besoins. On va en pharmacie ou même en magasin bio, parapharmacie. La dose, c'est à peu près 300 mg par jour. On respecte la posologie et il n'y a pas de risque de surdosage. La vitamine D, on est à peu près à 15-20 microgrammes par jour. Donc là, pareil, on regarde notre posologie au niveau des gouttes, mais en général, ça fait 3-4 gouttes par jour. Après, le fer, en général, le besoin est à 14 mg par jour en moyenne. Bon, ça ne va pas combler une énorme carence, mais ça peut quand même, si on est limite, pouvoir nous permettre d'essayer de stabiliser un taux satisfaisant au maximum. Après, les oméga 3, si on ne consomme pas de poisson gras et qu'on ne varie pas ses huiles avec de l'huile de colza, de l'huile de lin, les oméga 3, on en a besoin de 500 mg par jour. Voilà, donc regardez sur les compléments alimentaires, 500 mg par jour.
Donc en fait, les compléments alimentaires, ça peut être intéressant de se rappeler aussi que ça peut être des choses déjà que vous avez déjà potentiellement dans votre cuisine. Oui. Si vous avez de l'huile de colza, on peut dire que c'est une sorte de complément alimentaire, même si beaucoup, vous pouvez acheter des gélules de... Maintenant, il y a des gélules d'oméga 3, plein de choses. Mais déjà, si on reste au plus simple du simple, parce que nous, on sait que les gens qui nous suivent en général sont dans la simplicité, on aime les choses simples.
Ce qu'il faut, c'est pour les oméga 3, 2 poissons gras par semaine, donc parmi le saumon, la truite, la sardine, le hareng, le maquereau.
Et pourquoi c'est un complément alimentaire intéressant ? Qu'est-ce que ça nous fait ? Pourquoi j'en aurais besoin ?
Les oméga 3, oui. Pour le cerveau.
C'est pas utile le cerveau. Allez, on passe à autre chose.
Pour le cerveau, pour la peau, pour nos hormones, pour l'immunité. C'est anti-inflammatoire quand on a des douleurs chroniques, des problèmes de peau, des éruptions cutanées, voilà, des inflammations de tout type. Donc c'est vrai que dans les oméga 3, c'est essentiel. Et on en retrouve dans les poissons gras et dans certaines huiles, certaines graines de chia, les noix, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza. Donc si on a 2 poissons gras par semaine et une cuillère à soupe d'une des huiles que j'ai suitées par jour, normalement c'est bon.
D'accord.
Mais c'est vrai que quand on supprime les poissons gras et qu'en plus on ne varie pas ses huiles et qu'on n'a pas forcément envie de le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui détestent l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, ils trouvent ça affreux.
Je comprends, pendant des années, j'ai refusé de manger de l'huile de colza et encore moins l'huile de cameline, c'est affreux.
Donc après, on peut couper ça à l'huile d'olive dans une vinaigrette. Oui. Mais bon, si vraiment on ne veut pas, et ben on prend un complément alimentaire et ça, il n'y a pas de souci. Mais on se focus toujours sur l'assiette, sauf pour certaines choses où on ne peut pas, type vitamine D, magnésium quand on a vraiment besoin, le fer quand on est très carencé, la nourriture ne va pas suffire.
Et comment tu sais que tu as besoin de magnésium ?
Magnésium, quand tu es stressé, fatigué, crampe, courbature, quand tu as la paupière qui tremble, beaucoup. Et puis, de toute façon, on peut un peu prendre du magnésium à l'aveugle pour améliorer l'absorption de notre vitamine D l'hiver. Et parce que si on est stressé, fatigué, c'est aussi un risque de tomber plus facilement malade. Et donc, ça contribue indirectement aussi à l'immunité pour être en forme. Ça améliore la contraction musculaire quand on fait beaucoup de sport.
Je pense qu'on peut parler, parce que là, on a parlé de choses quand même assez factuelles. Et si on parle un peu du plaisir... Ouais. Une personne nous demande comment ne pas trop se priver justement et donc rogner sur le bien manger.
Après, ça dépend de l'enveloppe et de l'enveloppe budgétaire de chacun, de l'endroit où on vit, de ce qu'on considère comme plaisir ou pas, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que le plaisir ? Est-ce que c'est le gâteau qu'on va faire nous-mêmes? Est-ce que c'est juste le fait de partager un repas avec, avec des gens, quel que soit le repas en lui-même? Donc ça dépend en fait de ce qu'on considère comme qu'est-ce qui nous fait plaisir. Est-ce que c'est la brioche Nutella? Est-ce que c'est la pâtisserie à la boulange ou les viennoiseries de matin? Est-ce que c'est le fait d'acheter un bon fromage le dimanche au marché pour le manger avec du bon pain frais? Nous, je sais qu'on aime bien faire ça, c'est un peu notre plaisir. Même si j'aime pas trop la notion de plaisir, parce que si je classe des choses en plaisir, ça veut dire que le reste me fait pas plaisir. Alors qu'en soi, si, c'est un peu comme le cheat meal ou quoi. Mais c'est vrai qu'on se fait très régulièrement plaisir avec des choses très très simples. Acheter une très bonne tablette de chocolat, mais en manger un seul carré, pas forcément tous les jours. Acheter un très bon bout de morbier le dimanche et puis voilà, le manger avec un bon bout de pain. Mais c'est pareil, notre bout de fromage du marché va nous durer la semaine. Ponctuellement, aller chez le poissonnier, acheter quelques crevettes fraîches, pareil, pour manger avec du pain et du beurre. Enfin bref, ce genre de choses. Après, ça, là, ça dépend de la notion de plaisir de chacun. C'est sûr qu'il y a un moment, il faut faire des choix. Mais on peut tout à fait se faire plaisir avec des choses du quotidien. Ce midi, le repas était très, très plaisant. Et ça serait intéressant de calculer le coût de ça. Mais ça n'a pas dû coûter très cher, sauf la gaille d'oie. Parce que voilà, franchement, l'inflation de la poudre d'amande et du beurre et de la farine, c'est pas possible.
Oui, la gaille d'oie. Parce que pour donner une idée, ce midi, on a fait du riz. Donc voilà, moi j'achète les gros sachets de riz au magasin exotique, donc je peux vous dire que...
Un avocat pour trois ou
un avocat. Moi j'en mange pas, donc pour deux. Un avocat, ouais. Donc il y avait du riz, de l'avocat, un curry de pois chiches, carottes au tofu fumé, mais j'aurais pu ne pas mettre de tofu fumé, hein, c'est vraiment pour le côté fumé que j'aimais bien, mais j'aurais pu ne pas en mettre, mais c'était très bon. Et des alocos, enfin de la banane plantain. La banane plantain, ça, pour le coup, c'est un truc qui coûte très peu cher.
Bah, moi j'en ai acheté quasiment 20.
Oui.
Parce qu'on était plusieurs dessus, ça m'a coûté 13 euros. Donc c'est pour te dire, c'est
pour
pas...
20 bananes plantain.
Et là, t'en utilises combien pour...
3.
Un par personne.
Un par personne.
D'accord.
Une par personne. Donc je sais pas combien ça coûterait. Or, c'est quand même, je pense, avec l'avocat déjà, 20. Vous avez mangé de l'avocat, vous m'avez déjà plombé mon budget, mais que j'ai pas acheté en magasin bio, que j'ai acheté en magasin dit exotique.
D'accord.
Donc c'est déjà moins cher que le magasin, enfin que l'avocat de...
Ouais, parce que moi je suis en, à...
Au magasin bio.
2 euros et quelques l'avocat.
Là, je m'en souviens plus. Ah, vas-y, je pourrais le dire parce que j'ai le ticket de caisse, mais il faudrait que je me lève et je n'ai pas envie de me lever. Mais est-ce que finalement, comment ne pas trop se priver justement? Est-ce que aussi, c'est pas toujours revenir en partie au fait maison? Parce que finalement, nous, on se prive jamais. Enfin, moi, même quand je mange, enfin, moi, j'ai pas jamais l'impression de me priver.
Mais moi, je pense que quand les personnes écrivent des messages comme ça, c'est vrai que je pense que c'est limite, c'est le sujet de tout. T'as un épisode, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'adorerais faire l'épisode sur le shit meal justement. Parce que je pense que les personnes qui nous demandent « mais comment on fait pour se faire plaisir ?» pensent sincèrement, par exemple, que nous, c'est une façon de manger, voilà, on est content de faire ça la semaine, mais qu'on ne doit pas prendre de plaisir, parce que finalement, c'est d'une simplicité tellement enfantine que « mais c'est quoi le plaisir ?» Mais moi, mon plaisir, je l'ai dans toutes ces petites choses, dans les bananes plantains de ce midi, dans, oui, la galette des rois, mais ce soir...
Quand j'ai fait ma quiche cette semaine.
Voilà, dans mon carré de chocolat noir, parce que ça choque tout le monde, à chaque fois quand je dis que je mange un carré de chocolat noir, mais moi, un carré de chocolat noir après un dîner me suffit largement puisque je n'ai plus faim.
Après, le truc, c'est de manger lentement et savourer les choses. Parce que le carré de chocolat, si on l'avale d'un coup qu'on l'avale en faisant autre chose, on se dit « Ah, je ne sais plus le goût du chocolat, je vais aller regoûter parce que du coup, je ne me souviens plus de ce que j'ai mangé. » Donc après, voilà, ça dépend aussi comment est-ce qu'on mange les choses, comment est-ce qu'on les déguste.
Mais et est-ce que le côté privé aussi, c'est aussi cette impression que dans la nourriture, je m'offre quelque chose que je n'ai pas ailleurs? Parfois, quand je vois ce genre de questions, je me dis... Est-ce que se priver de... Je sais pas comment... Est-ce que je vais réussir à expliquer mon point de vue? Comment je fais pour ne pas me priver?
Ça veut dire qu'on recherche une sorte de satisfaction dans la nourriture
qui n'est peut-être pas comblée ailleurs? Est-ce qu'on peut pas trouver une compensation?
Une compensation dans la nourriture de...
Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que t'as l'impression de te priver parce que t'as l'impression que quand tu fais maison, tu trouves pas ça bon? Alors peut-être que c'est parce que... potentiellement, tu ne sais pas cuisiner, tu n'aimes pas cuisiner, et donc pour toi, le plaisir, c'est plutôt de pouvoir commander Uber Eats.
Assaisonné aussi, parce que...
Oui.
faut savoir les épices. Aussi, bah, voilà, faire revenir un peu à l'huile, ouais. Mettre un peu de matière grasse parce que ça rend le truc oui. quand même meilleur. Mettre oui. du sel, ne pas avoir peur du sel, mettre oui. des épices, voilà. Enfin.
Ce serait intéressant d'ailleurs que cette personne-là vienne nous voir aussi en message privé pour nous expliquer justement cette privation, parce que ça pourrait vraiment être l'objet d'un épisode entier justement sur la privation pendant cette période d'inflation. Je pense que beaucoup de gens à l'époque, pendant les guerres, etc., se sont privés hein, énormément. On n'en est pas là quand même, on n'en est pas à cette notion-là, nous, aujourd'hui.
D'où les supermarchés, d'où l'industrialisation.
Voilà, d'où après cette histoire de Trente Glorieuses, etc., parce qu'il y a eu tellement de privations que.
À cause des guerres, voilà.
C'est compliqué. Mais aujourd'hui, on n'en est pas à ce niveau-là, parce que je pense que si on refait tout le cheminement du podcast qu'on a fait aujourd'hui, l'épisode, on se rend compte quand même que. Si on refait quelques ajustements, justement acheter un peu moins de viande, mais la coupe, l'émincer, etc., rajouter un petit peu plus de légumes secs, etc., on se rend compte, manger moins et faire maison. Je pense que finalement, on se rendra assez vite compte qu'on ne se prive vraiment pas. On peut ne pas se priver, en tout cas dans l'alimentation, malgré cette inflation. Il faut être plus... faire preuve de créativité parfois. Mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, toi, quand tu disais que tu avais un bloc-notes où tu écrivais quand même des recettes. Moi, j'en parlais tout à l'heure aux filles en disant, franchement, si vraiment vous galérez, parce qu'il y a une personne qui demandait comment on trouve des recettes, déjà, je pense qu'il faut normaliser le fait qu'on ne mange pas des nouvelles recettes tous les jours.
Ah non, nous, on a nos plats récurrents. Après, voilà, comme j'ai dit, on fait varier un peu la garniture parce qu'on change le légume, on change le fromage, on change voilà, ce genre, la farine dans la pâte, voilà, ce genre de choses. Mais après, on a un bloc-notes où je ne mets pas les recettes. En fait, je mets juste, je gribouille le nom, l'intitulé du plat que j'écris dans le désordre. Après, dans la semaine, je vois en fonction des dates de péremption, qu'est-ce que je dois faire, voilà, le plus rapidement possible pour pas gâcher des aliments, pour les utiliser, etc. Et puis après, si je dois refaire mon menu vite fait avant d'aller faire les courses, je refeuillette les précédentes pages parce que bah, y a des fois, voilà, des choses que j'ai fait il y a 3 semaines, tiens, je vais le refaire. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a... on a toujours les mêmes plats, notre drive, on le répète et répète. Mais ça ne veut pas dire qu'on mange... pas varié, pas sain, pas équilibré. C'est juste qu'on varie les associations et les formes de ce qu'on oui. achète toutes les semaines.
Donc moi, je trouve que c'est un bon conseil, en tout cas, si vous êtes perdu et que vous n'avez jamais d'inspiration, parce que c'est un truc qui revient tout le temps, j'ai pas d'inspiration, ayez un bloc-notes, un cahier, quelque chose, ou votre téléphone, où vous avez une liste de recettes qui reviennent très régulièrement et auxquelles vous pouvez vous fier toutes les semaines. Et comme ça, bim. Et en plus, si vous faites un gratin, encore mieux. Vous faites un gratin, une tarte, bim, c'est... des repas qui font plusieurs jours. Donc, je pense qu'il restait encore pas mal de questions, mais ouais, désolée, les amis, elle doit partir, Tiffany. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions avec nous. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous aura plu
à vous aussi.
Ah, moi, j'adorais. Hein. Merci, ouais. Tiffany, parce que moi, quand tu viens ou quand on invite des gens, j'ai toujours l'impression que c'est pour moi que je fais l'épisode et qu'on aurait pu ne pas l'enregistrer, mais juste tu me parles. Voilà. Donc, à chaque fois, je me dis, ça se trouve, si ça me fait du bien à moi aussi. Ça va vous faire du bien peut-être aussi.
Bah, merci à vous de m'avoir reçu et puis bah, peut-être à une prochaine fois.
Bah, c'est sûr, à une prochaine fois.
À bientôt.
À bientôt les filles.